paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Pourdi, bonjour. Au début du mois de février, on apprenait le retour dans le hall de l'ONU, où siège le Conseil permanent de sécurité, de la tapisserie représentant le fameux tableau de Picasso, Guernica. Ce tableau monumental avait été peint par Picasso entre mai et juin 1937, dans les semaines qui ont suivi le bombardement de Guernica, le 26 avril 1937, par les aviations allemandes et italiennes à la demande de Franco. Il est le symbole d'une guerre civile dont les conséquences dramatiques demeurent douloureuses encore à notre époque. Ce tableau a été commandé pour l'exposition universelle de Paris, dont le thème était « Le progrès et la paix ». C'était à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a comme une forme d'ironie en cette fin du mois de février d'assister à un durcissement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec des actes de guerre et une montée des tensions entre les grandes puissances militaires, Russie et États-Unis, mais le risque d'un entraînement des pays de l'Union européenne dans une mécanique guerrière qu'ils subissent n'est pas minime. Allons-nous vraiment vers une guerre en Europe, comme au début du XXe siècle, dans l'engrenage des alliances militaires et leurs millions de victimes? Les jours prochains montreront si la sagesse et la diplomatie seront efficaces. La prière préconisée par le pape François n'est pas à négliger, d'autant qu'il s'agit de nations chrétiennes qui se font face. Désormais, il n'y a plus qu'une seule planète, soumise à des forces humaines, ou plutôt déshumanisées, devenues inhumaines, qui semble avoir perdu le sens du bien commun, et avec lui, la claire conscience de la dignité de tout être humain. Ce sens commun, hérité d'une sagesse immémoriale, s'est pourtant exprimé mystérieusement tant dans le cœur de chaque homme que dans les tables de la loi avec le décalogue. L'avenir de l'homme, jusqu'à présent garanti par le respect des lois naturelles, apparaît aujourd'hui comme sacrifié au nom du profit, de la concurrence sans foi ni loi et de la transgression tous azimuts. Sans foi ni loi, l'homme semble s'être engagé dans le piège de la démesure, sans limite, livré à son seul désir, au gré de ses fantasmes d'apprenti sorcier, refusant sa nature transcendante au risque de mutiler sa propre humanité, reniant sa propre dignité. Cette dignité étant le signe indélébile de sa nature profonde, de créature créée à l'image de Dieu, image de Dieu d'amour, sa vie n'a de sens que pour témoigner de cet amour de Dieu dans la création. Il existe cependant des témoins célèbres, dont la vie a, d'une certaine manière, changé le monde. Ainsi, Mère Teresa, la sainte de Calcutta, défenseur farouche de la dignité des plus faibles, qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Quelques années plus tard, en 1988, peut-être en passant devant le tableau de Guernica, elle déclarait à l'ONU, lors de la conférence pour la paix et le désarmement, « Le plus grand ennemi de la paix, c'est l'avortement ». De fait, elle a témoigné toute sa vie de la dignité de toute personne, de la conception à la fin naturelle, notamment dans toutes les formes de fragilité, dans les rues de Calcutta, comme dans le monde entier. Dans une synthèse dont elle avait le génie, elle affirmait « La connaissance de Dieu produit l'amour, et la connaissance de soi produit l'humilité. L'humilité n'est rien d'autre que la vérité. » La lumière qui se dégage de ces propos éclaire d'une manière toute particulière les temps que nous vivons aujourd'hui comme hier, et certainement pour demain, car ils ne sont pas des temps soumis aux modes ni aux idéologies, mais sont inscrits au cœur de l'homme, de manière intemporelle, et cependant caractéristique d'un mouvement intérieur qui anime chaque être humain. Chacun porte en lui l'écho, le souvenir, l'intuition nostalgique d'une époque heureuse, d'insouciance, faite d'accueil de la vie, de l'autre et du monde, nature et cosmos, sans crainte ni convoitise. Cet accueil se traduit dans l'enthousiasme et la louange devant la beauté de la création, la bonté du Créateur, la vérité d'un dessein d'amour pour la créature humaine. Cet écho, bien que lointain, se révèle dans une aspiration au bonheur, qui se décline universellement sans être défini, sinon vécu, autrement qu'à l'échelle individuelle. Or, la recherche du bonheur s'inscrit dans un besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé. Tout le reste n'est qu'illusion et vanité, fruit de l'orgueil de l'homme qui veut se faire Dieu à la place de Dieu. Si nous perdons la connaissance de Dieu, c'est l'amour, à l'origine de l'aspiration au bonheur, qui se coupe de ses racines et surtout de son avenir. Tel un arbre déraciné qui n'a plus de sève. Sans Dieu, source de l'amour, c'est la désespérance qui prend la barre. si nous perdons la connaissance de l'homme, alors s'ensuit la destruction de l'harmonie de la nature et la déconstruction orchestrée des équilibres de la nature humaine. Cette manifestation devient criante, et les voix qui tentent de le dire sont étouffées, interdites, pourchassées. Faut-il que les pierres le crient, si les voix sont rendues muettes? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Demande saint Paul. Si j'ai tout reçu, quel bien ai-je par moi-même? Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Pour reprendre l'affirmation de Mère Teresa, la connaissance de soi produit l'humilité. Elle poursuit sa méditation en rajoutant « Si vous êtes humble, rien ne vous touchera, ni louange, ni opprobre, car vous savez ce que vous êtes. Si l'on vous blâme, vous n'en serez pas découragé. Si l'on vous proclame saint, vous ne vous placerez pas sur un piédestal. » Et elle conclut par ces mots « La connaissance de nous-mêmes nous met à genoux. » Le prochain temps de carême, qui débute bientôt, nous incite à regarder notre humanité en nous mettant à genoux. Non pas seulement pour se considérer dans cette vision effrayante de nos aveuglements, de nos erreurs, de nos trahisons vis-à-vis de notre propre dignité, de celle des autres et de notre environnement, mais également en levant les yeux vers celui qui nous demande de le suivre, d'être à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour cela, le mois de mars nous propose un nouveau champ d'action. C'est le champ d'action de grâce de Marie, le Magnificat. Le 19 mars, la fête de Saint-Joseph rappelle la dignité de chacun et la dignité de chaque famille. Le 25 mars nous fait entrer dans l'ère de l'espérance chrétienne, par le message de l'ange et surtout le oui de Marie. Picasso nous a laissé une série de très beaux dessins à la plume, exécutés d'un trait pur, presque continu, lumineux. L'un des dessins, le numéro 8, représente un visage de femme souriant et une colombe posée sur sa main lui apporte un rameau d'olivier. Il s'intitule « La paix ». Dans le dessin suivant, datant du 5 décembre 1950, Picasso reprend les mêmes personnages, la femme portant la colombe sur sa main et la branche d'olivier comme une couronne sur le front de la femme. Le peintre lui a donné le nom de Marie. Marie, reine de la paix, est donc présente en chacun, mystérieusement reconnue par le peintre qui a le mieux symbolisé le chaos dû à la folie des hommes. Nous pouvons la prier en ce sens, en cette période où la paix, celle qui vient de Dieu et non des hommes, devient plus fragile et urgente, non seulement en Ukraine, mais dans le cœur de chacun. Je vous souhaite un saint carême. À la prochaine fois.